Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Seller, je suis votre chef de cabine. Au nom de notre commandant de bord, qui est ce soir Sylvain Tesson, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique, pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux de la steppe et des taïgas de la Sibérie, en passant par les bistrots de Valparaiso à Vladivostok. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce, jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redressez votre curiosité et en vue de notre décollage immédiat, préparez-vous à lire quelques haïkus dans la neige écrits par un barde à l'université de l'amour. Ladies and gentlemen, my name is Alex Tyler. Voyage en moi majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir sur France Musique avec Sylvain Tesson, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que c'est vrai que sur votre passeport, vous avez voulu mettre le mot barde pour votre profession? C'est ce que j'ai lu quelque part.
Moi,
barde, c'est la première fois que je reçois un barde.
Bah, enfin, je ne sais pas si je le suis, mais j'aime bien ce métier. C'est le plus vieux du monde, enfin il y en a un autre, mais celui-là aussi est assez vieux. Le barde, c'est celui qui marchait et qui racontait le soir. C'est tout de même mieux que d'allumer la télévision, d'écouter un barde.
Autrement, voyageur, écrivain, ça vous va tout ça?
Oui, mais très bien. Moi, j'aime l'idée d'une vie qui balance, qui oscille entre de longues périodes consacrées à voyager, à descendre les fleuves, à marcher dans les forêts, à vivre selon le rythme du mouvement.
Faire le tour du monde en vélo, par exemple, tout ça.
Et puis à revenir pour écrire tout ça sur une feuille de papier, ce qui est finalement un peu pareil. C'est un voyage dans les mots après le voyage sur les pistes.
Alors, l'autre référence un tout petit peu hermétique dans mon annonce de départ a trait à votre réponse à notre question, le voyage professionnel hors France que vous avez préféré. Vous avez répondu ma tournée de conférences dans les universités de l'amour. Enfin, c'est trop beau pour être vrai.
Ah oui, l'amour, le fleuve, pas le sentiment
mais vous avez
provisoire.
Répondu, est-ce que je, oui, voilà, c'est ce que vous avez répondu.
Le fleuve amour, qui est ce fleuve sibérien qui marque la frontière entre la Chine et la Sibérie méridionale. Et un jour, j'ai été invité à faire des conférences sur le récit de voyage comme genre littéraire devant de jeunes Russes qui, en général, étaient à 99% de jeunes filles absolument magnifiques, de jeunes sibériennes qui, après les cours que je donnais, m'invitaient dans les bistrots des villes comme Khabarovsk ou Komsomolsk ou Vladivostok ou Birobidjan et qui me disaient « j'adore Flaubert » ou bien « j'ai une grande passion pour Guy de Maupassant » parce que la littérature française, en tout cas celle du 19e siècle, continue à avoir de grandes faveurs dans les confins de la Russie.
Ça, ce sont déjà la façon dont vous abordez ces mots, cette langue. Que vous parlez le russe ou un petit peu ou...
Je le baragouine parce que j'y vais.
Mais vous parlez bien.
Je vais en Russie depuis 1991, depuis le putsch, depuis la fin de l'Union soviétique, quasiment tous les ans. Et j'ai fini par l'apprendre phonétiquement. Alors je parle un russe de Chartier, je parle un russe de la route qui me...
Mais vous avez l'accent, ça s'entend. Oui, j'ai
un bon accent. Puis j'aime cette langue, je la trouve musicalement très belle. En plus, il y a des bonheurs de langage absolu. Il y a des mots français également qui se sont installés dans le patrimoine lexical russe. Alors ça m'amuse de les détecter. Mais je parle un russe qui me sert davantage à survivre dans les taïgas et dans les steppes plutôt qu'à mener une conversation un peu délicate et raffinée avec des vieilles comtesses de l'aristocratie blanche à Saint-Pétersbourg.
Alors, je vous ai déjà fait le petit test. Ma seule phrase russe que je sache dire, c'est « Stovy khatitya yast ». Ça, j'ai appris dans une méthode à l'époque où j'ai essayé d'apprendre le russe. J'ai vite apprendre le russe. C'est horriblement compliqué. Il y a 12 déclinations pour le mot « œuf » déjà. L'accusatif de l'œuf.
Oui, il y a des déclinaisons. Il y a une grammaire qui est quasiment impossible. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Russes, y compris dans la lointaine Sibérie, qui parlent en s'affranchissant pas mal des subtilités de la grammaire et qui parlent un russe truffé de fautes.
Parce que tous les verbes sont perfectifs ou non perfectifs. C'est-à-dire, il faut choisir le verbe écrire une lettre. Il y a deux verbes pour écrire en fonction de si on écrit la lettre dans un but final ou exactement. Si on écrit vaguement la lettre.
Exactement. D'ailleurs, les verbes du mouvement, yerat, prierat, enfin tous les verbes qui désignent votre mouvement selon que vous arriviez ou que vous partiez ou que vous projetiez de partir ou que vous alliez à pied ou que vous vous déplaciez en voiture, à cheval ou en traîneau. Enfin, il y a un verbe pour chaque situation de mouvement, si bien que c'est un casse-tête et il vaut mieux partir tout seul d'ailleurs plutôt que d'essayer de venir à bout de cette grammaire difficile.
On vient de me dire dans le casque, je n'ai pas donné la signification de « je trouve gratitio jetzt ».
Alors, ça veut dire que voulez-vous manger, ce à quoi vous répondez en général?
Alors, il y a un seul mot que je comprenne, donc s'ils comprennent autre chose, je ne comprends pas, mais c'est « ikuru ».
Ikuru, du caviar, caviar, c'est très bien. Non, mais bien sûr. C'est très bien, c'est mieux que du saindoux ou de la vodka au cornichon.
Vous voulez bien piloter notre avion et notre première escale va démarrer avec cette musique. Richter joue Tchaïkovski, c'est la romance en fa mineur, donc pour parler de la Russie. Vous avez parlé de la Russie dans l'un de vos écrits comme l'empire du brinque-ballant. trouvais que c'était intéressant comme terme.
Oui, ça ne correspond pas vraiment à cette romance qui est très construite, mais j'emploie l'expression de l'empire du brinque-ballant parce que dans toute cette industrialisation soviétique qui a duré 70 ans, elle a laissé des paysages industriels qui aujourd'hui sont souvent en ruine ou en déréliction et qui donnent aux villes russes, en tout cas aux abords des villes russes et à certains paysages industriels russes, un air totalement déglingué. Par exemple, quand vous êtes le long des ports fluviaux, vous voyez ces grands paysages de grues écroulées, d'usines à moitié en décrépitude, et tout ça confère un caractère un peu désolé, triste à cette géographie. Et c'est ça que j'appelais la géographie du brinque-ballant. Mais moi, cette musique, je l'aime parce que pour moi, elle est l'exact reflet de ce qu'est l'âme russe. C'est-à-dire un mélange de grande mélancolie avec les premières phrases, ces espèces d'arabesques qui s'écroulent, qui tombent vers les graves en mode mineur. Et puis tout d'un coup, il y a un saisissement au deuxième mouvement. Et puis Tchaïkovski fait presque une marche un peu martiale. Et c'est exactement ce balancement de l'âme russe entre un côté très languide et langoureux, où on boit du thé, on boit de la vodka en pleurant mélancoliquement et en se désespérant. Et puis tout d'un coup, on se ressaisit et on part à travers la steppe. Et il y a ce double visage de l'âme russe.
Sylvain Tesson, vous avez dit tout à l'heure que votre première expérience de la Russie, c'était juste une semaine avant l'écroulement de l'URSS.
Oui, j'ai eu la chance de partir avec mes parents qui, à l'époque, dirigeaient un journal qui s'appelait Le Quotidien de Paris. Et nous sommes partis faire un voyage familial. Nous étions déjà des enfants. Et nous sommes partis en Russie soviétique. Et c'était en août 91, c'est-à-dire au moment où le politburo s'écroulait dans un froissement de pourriture, puisque tout ça s'est fait sans heurts, sans violence, sans armes, quasiment sans soubresaut. C'était vraiment le résultat de cette longue décrépitude champignonnesque. En août 91, Yanaïev a tenté de faire un putsch pour reprendre les commandes de l'Union soviétique. Et puis c'est ça qui a présidé à l'évincement de Gorbatchev et à l'arrivée de Yeltsin au pouvoir. Donc nous avons vu vraiment l'histoire en marche et cette espèce d'expérience à la fois monstrueuse et fascinante qui est celle de l'Union soviétique s'écrouler en quelques jours.
Cette histoire en marche était à la fois excitante mais aussi dangereuse. On ne savait pas du tout où ça pouvait mener. Je me rappelle à l'époque, c'était pas du tout évident que ça se termine paisiblement.
Oui, mais il y avait une certitude, et puis surtout le monde ne voulait pas croire que l'Union soviétique, qui était tout de même cette puissance qui avait terrorisé le monde entier et qui avait fondé la bipolarité sur la planète pendant tellement d'années, et puis ces vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, enfin cette puissance tellement forte qui représentait tellement de force et de violence, et puis qui en même temps faisait peur et créait cette terreur géopolitique, on ne pouvait pas croire que tout ça allait se résorber dans une révolution de palais. Ça a été ça qui a véritablement fasciné et étonné le monde.
Vous avez répondu dans la question, vous avez parlé de Moscou, c'est très joli, vous avez dit « J'aime Moscou pour sa violence et sa beauté criarde ».
Oui, je crois que Moscou est une ville qui, notamment depuis les années 2000, depuis le moment du ressaisissement économique russe, est une ville qui a attiré beaucoup les investisseurs, qui est une ville où il y a toute une économie qui est en train de jaillir, pour le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est l'émergence d'une classe moyenne qui va de mieux en mieux, et le pire, c'est une certaine économie parallèle et mafieuse qui fait qu'il y a une violence qui règne dans cette ville. Mais il est vrai que quand on va à Moscou, on ne peut pas rester indifférent à une certaine forme de violence qui est inhérente, je pense, à la manière dont les Russes conduisent leurs affaires, toutes les affaires d'ailleurs, domestiques, économiques, et les relations d'ailleurs entre les êtres. Mais c'est une ville qui est aussi criarde que l'architecture de Basile le Bienheureux, cette église qui vient fermer la place Rouge sur son flanc et qui offre au regard ces bulbes qui ressemblent à des grosses pâtisseries, à des sorbets, à des glaces, à un cauchemar ou un rêve d'enfant, un rêve pâtissier. Et bien la ville a quelque chose de cette criardise. Il y a un mauvais goût moscovite que reprochent d'ailleurs souvent les pétersbourgeois qui, eux, se considèrent comme les garants de la très vieille Russie, plus culturelle, plus policée et plus européenne.
Où est-ce qu'ils en sont par rapport au capitalisme ? C'est un capitalisme sauvage ? Poutine, c'est quoi vis-à-vis de ça ?
Écoutez, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Russie économique. Tout ce que je sais, c'est que la relative prospérité qui a permis l'émergence de cette classe moyenne depuis une dizaine d'années en Russie est liée beaucoup à la nouvelle exploitation des ressources et des gisements, notamment énergétiques, en Sibérie, puisque la Russie est dotée d'un sous-sol absolument extraordinaire qui lui confère une richesse pour les décennies à venir. Et il est vrai que c'est une économie qui repose beaucoup sur l'exportation d'une seule matière première qui est le pétrole et le gaz. On est là dans une économie qui ne s'est pas diversifiée beaucoup, il n'y a pas de biens de transformation qui sont exportés en Russie, mais il y a cette richesse-là. Et elle a permis l'émergence d'une classe moyenne. Et c'est vrai que dans la critique que les journalistes occidentaux émettent en permanence à l'égard de Poutine, on oublie un tout petit peu de dire que tout de même la situation économique pour les gens va mieux qu'il y a 20 ans et qu'à la chute de l'Union soviétique. Voilà pourquoi les gens ne sont pas très nostalgiques de cette époque-là, à part les très vieux, bien entendu, à part les vieux vétérans et les vieilles babouchkas. Mais il y a un avenir possible, il y a une croissance qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent qu'ils trouveront un emploi. Donc il y a cette effervescence économique dont nous avons totalement oublié, nous, la manifestation dans notre petit cap européen occidental et qui est très intéressante quand on voyage là-bas.
Alors, pour cette escale, vous avez choisi un mix, je vous cite, grotesque des discours de Poutine. C'est quoi ?
Ce sont des jeunes Russes qui se sont amusés à prendre des discours très martiaux de Poutine, notamment au cours de discours que Poutine a prononcé devant l'armée pour redéfinir sa géopolitique et notamment sa politique militaire dans le Caucase. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas là dans le raffinement et la délicatesse. Et ils ont remixé ils ont fait un arrangement des discours de Poutine en les coupant, et donc ça donne des espèces de phrases totalement surréalistes et grotesques. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il dit des choses du genre une nouvelle guerre a commencé contre les forces de l'OTAN, puis après on entend de la musique et vous voyez 1000 Russes dans une boîte de nuit comme l'Impérial par exemple à Moscou, qui sont en train de danser dans des nuages de fumée, et c'est totalement surréaliste. C'est comme si on prenait les discours du président Hollande, qu'on les remixait et qu'on se trémoussait dessus. Il y a quelque chose qui est tout à fait décalé, et on se dit tout de même qu'il y a là un sens de la politique qui est un peu surréaliste.
Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Совместное заседание палат Федерального Собрания для заслушивания послания президента объявляется открытым.
Добрый день, уважаемые друзья. Я бы сказал так. Это абсолютно ни в какие ворота не лезть. Об этом мало пишут и мало говорят. Жаль. Об этом просто чаще нужно говорить. Это и наша, и ваша задача. В последние годы экономического роста все должны быть участниками этого процесса. Мнения всех должны быть учтены. О чем это говорит? Первое. И второе. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, лучше не скажешь. К сожалению. Тянуть с этой реформой нельзя. И мы должны исходить из реалий. Бедность только немножко отступила, но продолжает мучить еще. К сожалению. О чем это говорит? Первое. И второе.
Alors ça s'appelle Pervoye Vtaroy. Vous pouvez le trouver sur un site de vidéo partage assez connu. Vous avez répondu, assez intéressant toujours dans le cadre de vos voyages russes, pour une personne étonnante rencontrée dans un train ou un avion. Vous avez rencontré dans un train russe près de Khabarovsk une nuit une jeune étudiante.
Oui, qui s'appelait Olga, et je venais de me faire casser la gueule par un ouzbek dans le compartiment du train. Et il m'a projeté à travers la vitre d'un compartiment.
On peut demander pourquoi, juste par
amusement ou... Non, parce que je crois qu'on était tous les deux assez sous et que la conversation a très vite mal tourné. Enfin, c'était une conversation d'ivrogne et j'ai dû le provoquer, mais j'ai très vite eu le dessous parce qu'il faisait de la lutte et qu'il devait peser 200 kilos et qu'il était très fort. Et en me protégeant le visage, je me suis entaillé le poignet sur 15 centimètres. J'ai la veine à vif, je perdais mon sang, c'était assez impressionnant. Et je suis rentré dans mon compartiment. Et il y avait cette jeune étudiante avec qui je partageais le compartiment, que je ne connaissais pas, et qui a fait quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'au lieu d'hurler, d'appeler la police ou je ne sais quoi, elle a déchiré sa tête d'oreiller, elle m'a fait un bandage, et on a versé de la vodka pour me désinfecter, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir une septicémie ensuite, quelques jours plus tard. Mais enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à la femme russe, qui, au moment où il y a quelque chose qui ne va pas, ne se dégonfle pas, et au contraire, elle se retrousse les manches et elle m'a soigné. J'ai trouvé que c'était assez magnifique. J'étais dans la nuit russe et je regardais cette manifestation d'une certaine générosité qui explique aussi pourquoi j'aime me retrouver dans ce pays.
Et vous aimez aussi, vous vous retrouvez dans une situation particulièrement dangereuse. Vous êtes un peu casse-gueule. Par exemple, je lis que vous aviez été, vous avez bu beaucoup de vodka dans une cour, inconscient plus ou moins. Vous a trouvé au milieu de Moscou.
Oui, parce que la vodka, parfois, vous crée des blackouts et donc on s'évanouit, on ne se souvient de rien et on se réveille le lendemain. Et moi, je me suis évanoui un jour dans une cour intérieure en Russie sans savoir où j'étais. Et on m'a dépouillé de tous mes habits. Je me suis retrouvé sur le carreau. En caleçon avec un t-shirt, on m'avait juste laissé ça, et je ne me souvenais plus de l'adresse où j'habitais, il était 6h du matin, heureusement c'était une nuit de la fin du mois d'août, donc il faisait pas trop froid, mais en Russie, il y a beaucoup d'ivrognes comme ça qui tombent par les nuits de neige, qui sont recouverts de neige, qui meurent, et qu'on retrouve au printemps, quand la neige fond, on en retrouve une centaine dans Moscou, tous les ans, on les appelle les perce-neiges, ils annoncent le printemps, comme les hirondelles.
Yeah.
L'une des trois chansons russes de Rachmaninov, là, c'était par les chœurs du théâtre Mariinsky et la BBC Philharmonic, sous la direction de Gianandrea Noseda. Donc, c'est votre choix, Rachmaninov. Pourquoi ?
Parce que je trouve que cette musique est assez peu conforme à l'idée qu'on se fait de Rachmaninov, et notamment à ses concertos. Et puis, parce que je trouve que c'est rythmique, les percussions, me fait penser au martèlement des roues du transsibérien et du train. Et moi, je suis assez obsédé par la rythmique du train. Quand vous prenez le transsibérien et que vous partez vers l'est, vous pouvez rester 7, 8, 9 jours à écouter ce bruit qui finit par vous obséder, ce martèlement des roues sur les rails. Et j'essaye de trouver une musique qui correspond parfaitement rythmiquement au bruit que fait le transsibérien sur les rails. Et je l'ai trouvé dans ces chansons russes de Rachmaninov, avec ces saccades, ce martèlement qui me fait véritablement penser à la traversée d'un convoi qui fuse à travers la grande nuit sibérienne.
Votre plus beau voyage, Sylvain Tesson, vous avez répondu en 2003 lorsque j'ai répété l'itinéraire des évadés du goulag stalinien à pied par les taïgas et par les steppes de la Yakoutie à l'Inde.
Oui, je suis parti en mai 2003 à pied d'une ruine de goulag au nord de Yakoutsk, et j'ai mis 9 mois à gagner Calcutta, et je me basais sur le texte d'un Polonais qui s'appelait Sławomir Rawicz, qui a décrit une évasion dont on a appris plus tard qu'elle était fausse, que ce n'était pas lui qui l'avait vécu, mais qu'elle avait été véritablement accomplie par un autre Polonais, mais que Rawicz avait pris l'histoire, se l'était approprié et avait raconté dans un récit qui s'appelle La Marche Forcée, cette grande évasion qui est un rêve absolu de géographe, puisque c'est un tracé longitudinal qui vous fait traverser en l'espace de quelques mois les taïgas, les grandes steppes de Mongolie, le désert de Gobi, le plateau tibétain, la herse de l'Himalaya et ensuite les jungles subtropicales du Bengale indien. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 ou 7 grands écosystèmes, vous avez le déroulé de tous les paysages de l'Eurasie.
Je comprends qu'on a envie de faire des voyages, de faire des défis, mais pourquoi celui-là ?
Parce que je trouvais...
Parce qu'il est quand même empreint de tristesse et de désespoir, quelque part, les évadés du goulag.
Oui, mais le désespoir et la tristesse, ça ne sont pas des catégories inintéressantes. Je trouve que quand on s'intéresse précisément au voyage, on s'intéresse aux motifs qui vous poussent à voyager. Or, des motifs qui vous poussent à voyager, il y en a des milliers. Il y en a probablement d'ailleurs autant qu'il y a de voyageurs. Il y en a qui partent parce qu'ils veulent enrichir leurs connaissances, aller apprendre des langues. Il y en a probablement qui partent même par amour, pour retrouver une personne lointaine. Il y en a qui partent pour faire du commerce. Je crois que c'est même un motif assez courant de voyage.
Et vous, le barde ?
Justement, il y a un motif chez ces évadés qui est de reconquérir la liberté. Moi, il me semble que c'est la plus belle raison de partir. Je trouve qu'il y a dans l'évasion une immense noblesse, puisqu'on est prêt à tout risquer, on est prêt à tout endurer, on est prêt à quitter l'enfer que les hommes vous ont promis, pour aller reconquérir quelque chose qui vous a été volé, qui s'appelle la liberté. Donc vous n'avez rien à perdre. Vous savez que, de toute façon, vous quittez quelque chose qui est pire que la mort, puisque c'est l'incarcération, et vous partez survivre seul, dans l'immensité, dans la nature, qui vous accueille ou qui d'ailleurs vous juge et vous tue, puisque les soviétiques avaient l'habitude d'appeler la forêt le procureur vert. C'est-à-dire que les évadés, en général, mouraient dans les marécages ou mangés par les ours, et on considérait que les difficultés de survie dans la taïga étaient aussi implacables que les procureurs politiques. Et donc, je trouve que c'était la marche à l'étoile de la liberté est l'une des plus belles, des plus beaux motifs, et je voulais à la fois célébrer cette motivation et répéter cet itinéraire.
Alors, vous avez choisi par Dina Vierny l'un des enregistrements des chants du goulag.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознаниях познавший толк, а я простой советский заключенный, и мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы. И вот сижу я в Таруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Таруханском крае, где конвоиры грубые и глупы. Я это все
конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе спешите на парадах. Мы рубим лес и сталинские щепки, как прежде во все стороны летят. То дождь, то снег, то мушкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы тут из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вчера мы хоронили двух марксистов, мы их не накрывали кумачом. Один из них был левым уклонистом, второй, как оказался, ни при чем. Живите тысячу лет, товарищ Сталин, и как бы трудно не было бы мне, я знаю, будет больше чугуна и стали на душу населения в стране.
Waouh, ça donne envie d'apprendre le russe, hein, rien que pour comprendre ce que chante Dina Vianney, chant du Goulag. C'était Tavarish Staline, camarade Staline. Moi, j'étais plongé aujourd'hui dans la lecture de votre Sibérie, ma chérie, qui est présenté sous forme de carnet même, sorti l'année dernière, avec les dessins et les photos, si vous, les textes, les dessins et les photos de Thomas Guasque et de Bertrand de Miolis. Est-ce que vous définissez-vous comme un ermite? Parce que vous décrivez vos six mois passés dans une cabane, en fait.
Oui, j'appelle ça un ermitage, mais le terme est un peu usurpé parce que...
Vous dites que c'est une case intermédiaire entre le barbare et le civilisé.
Oui, je trouve que l'idée de la cabane, l'idée de vivre dans une cabane est une manière de critiquer la société, bien entendu, puisque si vous voulez porter une critique à la société moderne, à la société urbaine, à la société folle dans laquelle on peut considérer que nous vivons, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous dynamitez les choses, vous devenez anarchiste, mais dans ce cas-là, finalement, vous confortez le système, puisque le système finira par prendre votre dynamitage comme une agression et par renforcer ses défenses immunitaires. Ou alors, vous partez, vous claquez la porte et vous vous enfoncez dans les bois. Et je trouve ça plus poétique, plus esthétique et finalement plus efficace comme manière de critique que de tourner le dos au système en disant « Moi, je n'ai rien à voir avec le système, même pas pour m'y opposer. » C'était une phrase d'ailleurs de Walt Whitman, le poète américain. Et c'est pour ça que moi, ça m'a amusé de partir dans les bois et d'essayer de réfléchir à ce vieux penchant humain.
Là, je trouve c'est plein de... Enfin, ce ne sont pas des haïkus, c'est beaucoup plus long, mais c'est presque l'esprit de haïku qui raconte votre vécu. Là, c'est pas ça, je trouve ça magnifique.
Un couple de Arles se plaît dans ma baie. Je passe des heures, l'œil aux jumelles, à détailler leurs crêtes de punk. Des arlequins plongeurs atterrissent plein gaz dans un canal étroit. Les canards sont sapés comme pour le bal, et lorsqu'ils s'envolent, ils ont sacrément l'air de savoir où ils vont.
Alors, c'est la collaboration entre vous trois, ça s'est fait de quelle façon?
Mais en fait, ces deux amis, Thomas Guasque et Bertrand Miolis, avec lesquels j'ai l'habitude de voyager en Russie depuis des années, par tous les moyens de transport possibles et imaginables. On est allés beaucoup en Sibérie, d'ailleurs, tous les trois. Et lorsque j'étais dans ma cabane sur les bords du Baïkal, cette petite cabane où je suis resté six mois, ils sont venus me visiter à deux reprises. Ils ont passé quelques jours au mois de mai, quelques jours au mois de juillet avec moi. Et l'un avec son appareil photo, l'autre avec son chevalet et sa peinture. Et nous avons essayé dans ce carnet de mêler les trois regards, le regard de l'auteur, le regard du photographe et le regard du peintre, pour simplement déclarer notre amour à cette Sibérie dont les Français ont parfois une image un peu négative, un peu effrayante. On réduit volontiers dans notre culture la Sibérie à une immense étendue gelée, piqueté de ruines de goulags et infesté de moustiques, alors qu'au fond, il y a en Sibérie d'abord un des paysages immense où l'humain, l'être humain se dissout littéralement dans l'immensité du paysage. Il y a des villes, il y a des villages, il y a des gens qui vivent et il y a surtout un souffle spirituel très important, très étonnant, qui tient peut-être à la position à la fois européenne et asiatique de la Sibérie, qui tient à l'immense douleur qui a été éprouvée sur cette terre par les hommes à cause de cette histoire effrayante, notamment de la déportation. Et le chant de Dina Verny qu'on a écouté tout à l'heure est une sorte d'hymne aux martyrs absolument somptueux, avec toute l'ironie et le désespoir dont sont capables les Russes quand ils souffrent. Et c'est tout ça qu'on a essayé de dire dans ce livre pour expliquer que la Sibérie était une terre bien vivante et pas seulement un marécage hanté.
Vous parlez de spiritualité. Quand on passe 6 mois comme ça, tout seul, plus ou moins dans une cabane, est-ce qu'on rencontre Dieu? Est-ce qu'on lui parle?
Mais moi, j'ai pas, en fait, je ne suis pas parti pour chercher Dieu pour la bonne raison que je n'y croyais déjà pas en partant dans cette cabane. En revanche, il y a un phénomène qui s'opère lorsque l'on vit tout seul comme ça dans les bois, c'est qu'on ressent tellement la présence, la pression, la tension de la nature, la force des éléments, le lac qui craque, le vent qui siffle dans les cèdres, les avalanches dans la montagne. On analyse les empreintes des bêtes sur le pas de sa porte lorsque l'on sort et qu'il a neigé. On est tellement dilué, dissous dans cette force de la taïga qu'on finit par se sentir soi-même un élément de ce grand édifice naturel. Et c'est ça qui est très agréable dans cette expérience de l'érémitisme, de la cabane, de la solitude dans les bois, c'est que tout à coup on se déshabille de cet habit de culture qui nous fonde, nous autres urbains occidentaux, européens, humanistes, et on devient un des petits éléments de ce grand édifice, de ce grand mécano naturel qui s'appelle la taïga sibérienne.
Alors, on va passer encore une musique que vous avez choisie, mais c'est bien de rester dans le même coin. Vous pilotez pratiquement un avion de l'Aéroflotte pour nous en ce moment, mais c'est une chanson qui passe beaucoup dans les bars en Russie en ce moment. Qu'est-ce que c'est?
Ça s'appelle Yayedouv Magadan. C'est l'histoire d'un jeune barman qui s'ennuie, qui se désespère dans ces espèces de villes post-industrielles soviétiques qui sont parfois posées au milieu de déserts, de la toundra ou de la taïga, où il n'y a pas beaucoup d'espoir pour les jeunes. Et ce jeune barman raconte qu'il a inventé une chanson un peu idiote qui s'appelle « Je pars à Magadan », plein d'enthousiasme. Et il raconte que cette chanson a eu un succès fou et que se sont ouvertes à lui les routes de la gloire. Et il faut juste préciser que Magadan, dans l'esprit des Russes, est une terre d'effroi et de déportation, puisque c'était le grand centre du goulag, c'était l'épicentre de ce que Solzhenitsyn appelait l'archipel.
Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста, начальник Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лабухом быть, или бор мести. Программа типичная, не дать не взять. Каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан.
Еду в Магадан. В Магадан.
Братан, а кто это поет, а?
Еду в Магадан.
Что, в натуре твоя песня? Не пиздишь?
В Магадан.
Слушай, ну красава вообще, а?
Еду в Магадан.
Песня дерьмо, конечно. Но местным нравится. Говорят, у меня талант, и я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку. Ты, говорит, только Вася, пой, Вася, пой. Мою песню мы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах. Над Черноморским побережьем звучит Магадан. Я реально поднялся, я реальный пацан.
еду в Магадан.
Давай, братан, для нашего столика еще разок.
В Магадан.
Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
Еду в Магадан.
Vous écoutez Voyage en moi majeur, vous avez toutes les références de ces musiques choisies par Sylvain Tesson sur le site de l'émission francemusique.com, Voyage en moi majeur. Non seulement vous avez traversé la Sibérie, la Russie, etc., vous avez aussi, à part votre tour du monde en vélo, fait l'Himalaya à pied, puis les steppes de l'Asie centrale à cheval.
Oui, je suis parti en 1999 avec une jeune fille qui s'appelait Priscilla Telmont du Kazakhstan et nous avons chevauché pendant 6 mois avec 3 chevaux à travers le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan jusqu'au rivage désolé de la mer d'Aral, qui est cette mer qui est en train d'être, qui a été vidée par les Soviétiques. Nous avons laissé nos chevaux là-bas et ça a été un voyage qui pour moi a été très fondateur parce que j'ai découvert cette région qui est l'Asie centrale, et qui est un sas de communication entre la Russie et l'Orient, et qui est une région extrêmement complexe, extrêmement intéressante, notamment parce qu'elle a toujours été cet endroit de communication, depuis les routes de la soie jusqu'aux dernières expéditions des explorateurs russes dans la région, un sas de communication entre la Chine et l'Occident. C'est une région qui est chargée par l'histoire de traduire l'Europe à l'Orient et de traduire l'Orient à l'Europe.
Comment est-ce que vous vous préparez à de telles aventures? Par exemple, quand vous êtes parti à vélo, vous avez préparé ça pendant 2 années avant. Vous avez vu des choses, non? Vous êtes parti comme ça?
Quelques jours avant. Le principe de ces voyages à cheval, à vélo, en canot, à pied, est qu'il ne demande aucune préparation. Il faut juste avoir une idée, il faut évidemment avoir une envie, et il faut avoir le grand luxe de notre monde qui est le temps. Mais une fois que vous avez réuni ces quelques ingrédients-là, et que vous avez l'idée de votre itinéraire...
Il faut avoir les chevaux aussi, vous voulez trouver les chevaux.
Mais oui, mais justement, quand vous êtes en Asie centrale, c'est très facile de trouver les chevaux, puisqu'un cheval en Asie centrale, ça se trouve comme une bicyclette en Chine, ou comme un patin à roulettes dans une région où on en fait beaucoup, vous comprenez? Nous sommes là dans des territoires de cavaliers, où à la limite, c'est le piéton qui est suspect là-bas. Donc nous sommes arrivés dans la région d'Alma-Ata, qui était l'ancienne capitale du Kazakhstan, et nous avons trouvé des campements de nomades, et ils nous ont vendu des chevaux, ils nous ont appris à nous en occuper, et nous sommes partis à l'aventure.
Et vous êtes resté avec les mêmes chevaux hein?
Nous sommes restés avec les 3 mêmes chevaux, absolument. C'est tout le défi et le bonheur du cavalier que de voyager avec ses montures et de revenir avec ses montures, de parvenir à la fin de son itinéraire avec les mêmes montures et si possible dans les meilleures conditions que celles où on les avait achetées.
Alors pour parler de l'Asie centrale, Sylvain Tesson, vous avez choisi Glinka.
Oui, parce qu'il y a dans Ruslan et Ludmila, qui est son opéra majeur, le plus connu, une danse orientale que j'aime beaucoup et qui fait référence à cette position étrange qu'a la Russie, enfin l'URSS, les ex-républiques de l'URSS, qui sont un peu le cul entre deux chaises, qui n'ont pas véritablement tranché entre leur part asiatique et leur part européenne. Et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans cette fécondation en fait, de deux univers, dont le terreau le plus propice, finalement, est l'Asie centrale. Et il y a dans Glinka cette double influence qui, pour moi, est un bon symbole de ce que peut exhaler l'Asie centrale de richesse.
Et ici, c'est par les chœurs et l'orchestre du théâtre Bolchoï de Moscou.
Thank you.
Voilà, nous allons sur votre dernière escale. En fait, vous êtes le premier à nous proposer tout simplement, vous posez la question, dernière escale, pourrait-on consacrer ma dernière étape à l'évocation de la route, tout simplement. Pourquoi ?
Parce que la route, finalement, c'est un pays en soi. La route, c'est une expérience, la route, c'est une école, c'est une école de vie. Et quand on a choisi de consacrer sa vie au mouvement, quand on sent que le mouvement, le voyage est à la fois votre nature et votre vérité la plus profonde.
Quand est-ce que vous avez senti ça ? Est-ce que ce sont pour vos parents ? Votre mère était, vous avez dit médecin, mais parachutiste.
Oui, c'est vrai que mes parents ont toujours beaucoup aimé les voyages et tout ça, mais enfin, ils étaient tout de même des Parisiens. Et je sais pas, moi j'ai aimé cette idée que la route me permettait de toutes les fuites. Et puis je me sens bien quand je suis en mouvement. Je trouve aussi que lorsque l'on voyage, lorsqu'on est sur la route, lorsqu'on est en train de flâner, d'errer ou de voyager avec un but précis, on se sent dans une certaine liberté. Et puis il y a une réduction aussi de c'est une vie assez sobre, puisque quand vous partez, que vous voyagez, vous n'êtes pas évidemment entouré de tout votre équipement qui nous alourdit tellement. La route, c'est quelque chose qui vous décape, qui vous dégraisse, qui apprend la sobriété, la simplicité, et qui donc
vous... Oui, mais depuis le temps que vous faites des routes différentes par tous les moyens, vous vous êtes dégraissé déjà pas mal, non ? Est-ce que vous avez encore des choses à dégraisser ?
On a toujours, je crois qu'on n'a jamais fini de vider son sac, on n'a jamais fini de se simplifier, on n'a jamais fini de se désophistiquiser, et c'est vrai que moi j'aimerais bien peut-être finir, enfin c'est le rêve ultime, finir comme ces sadhus hindous sur les routes de l'Inde qui ont tout quitté. Je sais bien que c'est un fantasme absolu et que jamais je ne finirai comme ça, mais il y a tout de même chez le voyageur cette espèce de tentation, la tentation du dépouillement absolu, et la route, c'est le monastère de ceux qui veulent arriver à cette nudité totale et pouvoir ne vivre en ne s'alimentant que du défilement du paysage. Moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre à la fois du fantasme et de la tentation et du rêve chez moi.
Il y a encore toujours le danger, non ? Parce qu'il faut dire, au moment où vous arrivez dans le studio, vous avez... deux sparadraps sur les doigts.
Oui.
Vous avez ce truc autour de
oui,
votre bras.
Non,
donc, quand même, vous êtes,
non,
vous exposez à des
non,
choses.
Non, non, pas du
tout. Vous,
non,
vous êtes tombé en vélib à Paris.
Non, je fais un peu d'escalade et j'ai eu un petit incident d'escalade.
Ah, parce que vous escaladez aussi les façades des immeubles pour aller voir vos amis.
Oui, ça m'arrive parfois, mais non, non, c'est un petit incident d'escalade qui n'a rien à voir avec la vie dangereuse. Non.
Notre-Dame aussi.
Il y a dans l'idée de la route et de l'errance et du vagabondage quelque chose également qui me plaît, parce que il y a une manière romantique d'aborder la vie, mélancolique, lorsque l'on traverse des immensités, cette géographie de la désolation que j'aime, qui est la géographie de la steppe, des plateaux, de la haute montagne, et on ressent une sorte de solitude qui tout d'un coup vous étreint comme une mélancolie, comme une rêverie, comme une douceur. Et j'aime la figure qui a traversé la littérature, qui a traversé la littérature avec les romantiques allemands, avec Hölderlin, avec Novalis, avec Hermann Hesse, qui a traversé la musique, qui a traversé la poésie, qui a traversé la peinture. J'aime cette idée de l'errance, de la promenade.
C'était Ernst Jünger.
Parce que Jünger, qui a été un écrivain de la guerre, a été un philosophe de la modernité, mais il a été aussi un contemplateur solitaire qui a beaucoup chanté l'idée de l'observation de la nature comme expérience finalement de l'univers. Il regardait un insecte et il lui venait des méditations d'ordre extrêmement universel. Eh bien, c'est la figure pour moi du vagabond qui a été très importante, qui a été un archétype dans l'histoire de l'Europe à la fin du 19e, me semble une figure très belle, éminemment littéraire, et j'aime essayer de temps en temps de l'illustrer par les voyages que je fais.
Dans quelle mesure est-ce que ces voyages aussi ont un message ? Je pense à Robert Ménard, de Reporters sans frontières, que vous avez emmené en haut de Notre-Dame pour protester contre les Jeux Olympiques en Chine à l'époque, non ?
Oui, c'était en 2008, c'était à l'époque où il s'occupait de Reporters sans frontières, et c'est vrai qu'on avait mené un certain nombre d'actions, parce qu'il y avait quelque chose de tout de même d'extrêmement vulgaire de faire ces espèces de Jeux Olympiques en Chine, je crois, à Pékin, alors qu'on savait très bien que la politique au Tibet était abominable et inacceptable. Donc quand les Chinois sont venus faire leur espèce de parade à Paris, nous avons légèrement gâché la fête, ce qui était une manière de rappeler qu'il se passait des choses.
Donc il y a une part politique, il y a une part de message parfois ?
Parfois, pas tout le temps, j'ai pas l'esprit très militant, moi. Vous comprenez, quand vous aimez marcher tout seul, vous n'êtes pas du côté des manifestants, quoi. Moi, dès que je vois des gens qui marchent dans une rue dans le même sens, il me prend l'envie, quel que soit le message, d'aller dans le sens contraire, bien entendu. Non, non, je n'aime pas beaucoup les manifestations, je n'aime pas le militantisme. Encore une fois, moi, je préfère, si j'ai une critique à apporter à quelque chose, je préfère partir. J'aime mieux l'action du cheval, vous savez, qui, dès qu'il sent une ombre qui va lui gâcher sa vie, il prend la fuite. Je trouve que la fuite est un comportement, finalement, qui est beaucoup plus aristocratique qu'on ne le dit. On a beaucoup d'irrévérence, nous, dans notre société, face à la fuite, parce qu'on est dans une société de l'efficacité, de l'utilitarisme, du profit, du résultat immédiat, et donc on n'aime pas les gens qui fuient. Donc non, moi je ne suis pas très militant, et puis je ne crois pas non plus qu'on change le monde par des mots, je crois qu'on le change par des actes, et souvent par des actes privés, et souvent par des actes secrets, et du coup il ne me prend pas l'envie, moi, de brandir des banderoles avec des slogans. Je préfère monter en haut d'un arbre.
Vous êtes le plus parfait promeneur, c'est le Wanderer. C'est pour ça que vous avez choisi ce lied de Schubert, chanté par Gérard Souzet. Voilà un petit extrait malheureusement de Der Wanderer, Ich komme vom Gebirge her, de Schubert, chanté par Gérard Souzet. J'aimerais bien aussi que vous nous parliez, parce que nous sommes en partenariat dans cette émission avec la revue Long Cours, et encore une aventure, Sylvain Tesson, parce que vous êtes parti en voilier à destination de la terre de Baffin, Louise.
Oui, j'ai eu la chance au mois d'août dernier d'embarquer sur la goélette de Thierry Dubois, qui est un skipper qui organise des voyages et des traversées de la mer de Baffin, entre le Groenland et la terre de Baffin, qui est une terre dans le territoire des Inuits au nord du Canada. Et j'étais avec un grimpeur, un champion d'escalade qui s'appelle Daniel Dulac, et nous avons eu la chance de faire de l'escalade dans les fjords de cet endroit et de nous rendre compte d'un certain nombre à la fois de problèmes et de défis qui se posent pour le monde arctique et qui font que ces régions-là, le Groenland, la terre d'Ellesmere, la terre de Baffin, le passage du Nord-Ouest, qui étaient les régions totalement oubliées, les confins arctiques et gelés du globe, sont en train de devenir géopolitiquement des points extrêmement chauds de la planète, car au fur et à mesure que les glaces fondent, eh bien les investisseurs savent qu'on va pouvoir exploiter les gisements, faire de nouvelles routes de communication, construire des plateformes, et donc il y a toute une sorte de fébrilité qui est en train d'étreindre les nations qui sont frontalières de ces océans arctiques et qui savent très bien que les enjeux de demain vont entre autres se passer dans ces nouveaux territoires.
Quel est le contact que vous avez avec les Inuits, les gens sur place?
Ben, ça a été assez intéressant. C'est très intéressant de faire un voyage qui vous amène du Groenland à la terre de Baffin, parce que vous vous rendez compte que vous quittez une société qui est la société groenlandaise, qui est métissée depuis le XVIIe siècle, qui a rencontré les Danois, qui est une société qui est en ordre de marche. Et quand vous arrivez de l'autre côté, c'est-à-dire en terre de Baffin, vous êtes là dans le modèle, le triste modèle en fait du colonialisme américain, et qui a beaucoup moins bien marché, puisque il y a quelque chose qui s'apparente aux réserves des Navajos, notamment par exemple dans les Rocheuses, ou des Indiens, avec des Inuits qui sont beaucoup plus subventionnés et qui est beaucoup moins mélangé à la société canadienne anglophone ou francophone. Et vous avez finalement une situation où ressort beaucoup plus la détresse que sur la rive d'en face au Danemark, où vous sentez que le mélange s'est beaucoup mieux fait et depuis beaucoup plus longtemps avec les populations européennes et danoises.
Quand vous écrivez, parce que vous avez une écriture très belle sur ces voyages, ce sont des choses que vous composez après ou ce sont des notes que vous prenez au fur et à mesure de vos voyages?
Moi, il se trouve que je tiens mon journal depuis l'âge de 20 ans, à peu près tous les jours. C'est presque une obsession, c'est un acte compulsif. Je considère qu'une journée n'est pas totalement close tant que je n'ai pas mis un point final au petit récit que j'en fais dans un journal. Alors parfois c'est très court parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans la journée. Parfois c'est beaucoup plus long parce que ça a été une journée trépidante. Mais j'aime bien cette idée de rendre hommage au temps qui a passé en écrivant quelques lignes. Et puis surtout le fait de savoir que le soir vous allez avoir le rendez-vous avec votre page blanche, ça vous oblige tout de même à porter une plus grande attention à ce qui vous arrive dans la journée, puisque vous savez que vous aurez l'obligation le soir de le raconter.
Est-ce que vous êtes content de rester dans une ville, ou est-ce que vous avez des pieds qui vous titillent de partir tout de suite quand vous êtes dans une ville comme Paris, par exemple? Combien de temps vous restez?
Mais je ne considère jamais que je reste quelque part, parce que je suis toujours plus ou moins de passage. Je reviens toujours de quelque part et je pars toujours. J'ai un peu une vie, je passe ma vie dans les valises. Je fais voir du pays à mes valises, en fait, et ma vie consiste à traverser les endroits pour aller vers d'autres endroits. Et malheureusement, on écoutait tout à l'heure le lead de Schubert, The Wanderer, qui se termine par cette phrase tellement belle, tellement déchirante, et qui est aussi un principe de voyage: la joie se trouve là où tu n'es pas. Alors voilà pourquoi peut-être on continue à voyager.
Alors juste pour dire que vous pouvez gagner des exemplaires de long cours avec cet article de Danse sur la Louise. Soit vous pouvez le faire en demandant par mail sur le site de l'émission, soit par courrier postal. Vous pouvez mettre à mon nom, Alex Taylor, Radio France, 116 Avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris, CEDEX-16. De toute façon, l'adresse vous trouverez sur le site web si vous voulez pas envoyer ça par courrier. C'est pas très logique, mais voilà. Donc, bah, tous les moyens sont bons pour avoir des exemples de long cours, le plus beau coucher de soleil que vous avez jamais vu, en une phrase.
Oh, c'est certainement sur le lac Baïkal devant la Bouriatie. Mais je dois dire que les couchers de soleil de l'Île-de-France, lorsqu'on est sur les toits à Paris et que le soleil se flanque à l'ouest de la capitale, sont absolument somptueux, avec tous les clochers de Paris qui forment des reliefs et qui finissent par s'apparenter à un paysage de quasiment de montagne, avec ses aiguilles, ses flèches et ses sommets.
Sylvain Tesson, merci beaucoup.
Merci.
Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité. Au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Fleura, notre réalisateur, Maud Nourry, l'assistante de production, et ce soir, Amandine Grévaux, la technique. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique.
Mesdames et messieurs, le moment d'atterrir à Toronto, vous pouvez rester assis jusqu'à l'arrêt complet, l'appareil est terminé.
C'est toujours un mystère pour moi pourquoi on a atterri à Toronto, mais voilà, c'est comme ça sur les bruitages de la radio. En tout cas, nous avons atterri. Il est temps de rendre l'antenne tout de suite pour ces nuits noires de monde à M. Laurent Valero. Bonsoir Laurent.